Bonsoir, merci d'être venu ce soir au Centre Pompidou à la rencontre d'Éric Reynard, que la BPI a le grand plaisir d'accueillir dans le cadre de son cycle « La création à l'œuvre ». Depuis son premier livre « Demi-sommeil » paru en 1998, jusqu'au tout dernier « Le système Victoria » publié en 2011, Éric Reynard ne cesse de renouveler l'art du roman en élaborant des structures narratives subtiles et complexes où le point de vue se déplace sans cesse, comme pour mieux rendre compte de notre époque, dont le sens nous échappe le plus souvent. Éric Reynard relate en effet avec beaucoup de singularité notre monde d'aujourd'hui, en particulier dans ses deux derniers romans, Cendrillon et Le système Victoria. Il décrit un monde en constante métamorphose, celui de la mondialisation, du capitalisme financier et des classes moyennes. Éric Reynard écrit aussi pour le théâtre, la danse, le cinéma. Il va nous parler de son parcours d'écriture en compagnie de Christine Rousseau, qui est journaliste au Monde des Livres, en charge de la littérature française, et qui a très tôt remarqué l'inventivité et le style percutant de notre invité. Je lui donne la parole en vous souhaitant une très bonne soirée.
Merci à tous d'être là et d'avoir bravé les frimas pour venir jusqu'ici, pour assister à cette rencontre. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais envie que Éric Reynard nous permette de nous installer à son bureau, tel qu'il l'a dépeint dans Cendrillon, et qui, d'une certaine manière, nous introduise dans son univers.
Et puis, merci à tous d'être là pour m'écouter et écouter Christine. Et je voulais, au préalable, dire une chose, c'est que je suis très heureux et très fier d'abord de parler ici au Centre Pompidou, c'est un honneur, et d'être interrogé en la circonstance par Christine, qui est la toute première critique littéraire à s'être intéressée à moi. Lorsque j'ai publié mon premier roman, Demi-sommeil, j'ai eu deux articles. Un article de Fabrice Gabriel dans Les Inrecuptibles, mais enfin je connaissais un peu Les Inrecuptibles pour avoir à l'époque écrit quelques textes dans Les Inrocs, et une inconnue, Christine Rousseau, qui a demandé à me rencontrer. Et c'était le tout premier entretien que j'ai donné au journal Le Monde. Donc, inutile de vous dire que j'étais intimidé, un peu comme ce soir ici. Pour un jeune écrivain, avec un livre tout juste paru, avoir un entretien comme ça avec un journaliste du Monde, c'était assez énorme. Et donc, j'ai eu droit à un très bel article, presque une page dans Le Monde, et de Christine, voilà, qui, parmi les quelques 600 livres paru lors de cette rentrée littéraire 98, ça ne nous rajeunit pas, hein. Elle avait détecté ce premier roman, Demi-sommeil, chez Actes Sud, en était emparée et avait souhaité me rencontrer. Voilà. Et depuis, je peux dire que Christine Rousseau est la seule critique littéraire à avoir écrit sur chacun de mes livres. Voilà, tu as écrit sur... chacun de mes ouvrages depuis 98, 5 articles, donc voilà. Donc on peut dire qu'elle connaît bien mon travail. Donc effectivement, c'est au début de Cendrillon la description de mon bureau d'écrivain, dans une chambre de bonne. Et je prends la description en cours de route. À droite de cet article, une photographie d'Arthur Miller lors de la première d'après la chute, anxieux, une cigarette à la main, qui écoute attentivement la pièce debout dans les coulisses. Au-dessus de cette photographie, imprimée à l'encre noire, une feuille de papier beige où l'on peut lire « Der Meister und Margarita, Bulgakov », tract imprimé par le génial metteur en scène allemand Frank Castorf à l'occasion de la première de cette pièce à Berlin, l'une de ses plus sublimes. À côté, un photomaton surexposé où l'on peut voir Leonardo, savamment négligé, gracieusement fatigué, cheveux longs, pâleur idéaliste, qui a l'air tout droit sorti d'un film de Gus Van Sant. Au-dessus de ce photomaton, non loin de mes portraits photographiques, une inscription à même le mur dont je me suis rendu coupable un matin, « Bring me the head of Eric Reinhardt », écho humoristique au film de Sam Peckinpah. Sur le mur du fond, à proximité de ce pêle-mêle, une lithographie du bac que Margot m'a offerte avec l'argent d'une collecte quand j'ai quitté l'entreprise où nous nous sommes rencontrés. Un peu plus loin, sur le même mur, une œuvre que m'a donnée Fabienne Verdier en remerciement du livre d'art que j'ai conçu, consacré à son travail. Cette œuvre est l'interprétation calligraphique de la pensée du vide, réalisée à l'encre noire en un seul trait de pinceau. Quoi que puisse suggérer sur cette question le portrait utopique de Patrick Messina, Fabienne Verdier a toujours considéré que j'étais désuni. Je lui répondais que mon œuvre ne pouvait naître que des tensions, des conflits, des guerres civiles qui m'écartèlent. Ce sont ces divisions qui constituent la substance même de mon travail, en l'occurrence la dislocation de l'homme contemporain et son désir intense d'exil, d'asile, de rêve insulaire. « Mais l'unité, argumentait la calligraphe, il faut que tu retrouves ton unité, et tu n'y parviendras qu'en faisant le vide en toi, par le silence et la méditation, la sublime solitude de l'ermite. » Je regardais Fabienne Verdier effrayée. Le vide? La sublime solitude de l'ermite? Et pourquoi pas 15 ans de prison?
Merci Eric Reinhardt. Alors, j'avais envie qu'on démarre par Cendrillon, parce que c'est un livre que j'ai relu avec bonheur, comme d'ailleurs tous les livres, et j'ai envie même de l'appeler le système Reinhardt, parce que c'est une sorte d'autofiction qui se mue au fil de la lecture en roman monde, et on y discerne un certain nombre de choses dans ce livre, et notamment votre rapport au monde. C'est vrai que le monde, vous êtes un fin observateur de notre société, et le monde et les romans monde sont très souvent l'objet de vos romans, notamment Cendrillon et le système Victoria. Alors je voudrais, ce rapport au monde, je voudrais qu'on y revienne un petit instant, notamment sur l'origine de l'écriture, parce que outre les lectures fondatrices que furent pour vous Mallarmé, Joyce, Lautréamont à l'adolescence, il semble que votre désir d'écriture soit né de la peur que vous inspirait ce monde extérieur et en particulier celle du monde du travail et de l'entreprise.
Oui, c'est vrai, c'est ce que j'explique dans Cendrillon. Dès l'adolescence, confronté à une certaine dureté du monde contemporain à travers d'abord l'angoisse de ma mère, qui était quelqu'un d'assez angoissée, très anxieuse, qui avait peur que ses enfants ne réussissent pas et qui donc comme ça réverbérait sans cesse dans la vie quotidienne toutes ces frayeurs. Et puis mon père qui se heurtait très souvent à des situations difficiles qui lui empêchaient d'exaucer ses rêves de progression sociale, de réussite. Si bien que dans ma famille, mon foyer, la peur de l'échec, du désastre, de la débâcle s'est installée assez vite et m'a un peu contaminé. Si bien que je me suis retrouvé dans une double relation au monde qui était donc de peur. La peur de ne pas trouver ma place, la peur de ne pouvoir être heureux, la peur d'être rejeté, comme je pouvais voir parfois mon père rejeté par ses patrons ou ne pas arriver comme ça à faire que les stratégies qu'il pouvait comme ça inventer l'amènent à ses fins. Et pour conjurer tout ça et pour quand même parvenir à se sentir plus ou moins bien, je me suis très tôt réfugié dans le sensible et en instaurant avec la réalité comme ça une relation fondée sur la sensation. J'ai développé très vite une espèce de régime comme ça, un romantisme de l'effusion sensorielle et il fallait absolument que je trouve un sens à ma vie à travers le nombre, la qualité, la richesse de ce que je pouvais éprouver. En cela, je m'opposais aussi aux valeurs matérialistes de mes parents, qui pouvaient mesurer la réussite d'une vie, comme beaucoup de gens, et je ne leur jette pas la pierre, au revenu, au salaire qu'on pouvait avoir, à la taille de sa voiture ou de sa maison. Et je m'inscrivais en faux contre cette vision du monde. Je n'avais absolument pas envie d'avoir la vie de mes parents, de travailler dans l'entreprise. Et si bien que je, à travers une crise d'adolescente particulièrement virulente, particulièrement virulente, j'opposais comme ça à ce que pouvait représenter mon père une autre pratique de la réalité fondée sur la vie poétique pour aller vite. Et donc très tôt, vers l'âge de 16-17 ans, j'ai commencé à dire à la table familiale que je deviendrais un artiste et que je serais écrivain. Voilà. Et par ailleurs, il y avait dans ma famille un oncle, en l'occurrence le frère de ma mère, qui était peintre et qui réussissait particulièrement bien quand j'avais 16 ans, puisqu'il exposait dans une galerie fameuse qui a aujourd'hui fermé ses portes, qui était la galerie Stadler. La galerie Stadler exposait des peintres comme Saura, Tapies, c'était l'un des premiers marchands ce peintre italien, Lucio Fontana, pardon, ou Gina Pan, ou Rainer, enfin des gens comme ça, Huftier. Et mon oncle, comme ça, était auréolé d'une sorte, comme ça, d'aura et de prestige incroyable, puisque il était comme ça à Paris, artiste, il fréquentait du beau monde, et c'était l'assistant du sculpteur César. Ici même au Centre Pompidou, lors de l'exposition Paris-Paris, c'est à lui qu'on a confié le soin de refaire les mannequins de Dali. Et moi, je trouvais ça absolument fascinant, et j'ai trouvé refuge auprès de lui vers l'âge de 18-19 ans. Et c'est lui qui m'a donné en quelque sorte la force et l'envie comme ça de rompre avec des valeurs et un système et des visions qui étaient celles qu'on pouvait trouver chez mes parents en banlieue, dans un lotissement à une quarantaine de kilomètres de Paris. Mon père était technico-commercial dans l'informatique et ma mère ne travaillait pas. Voilà les choses.
Et en même temps, ces valeurs, ce monde, vous n'allez avoir de cesse que de le dépeindre, peut-être pas dans le demi-sommeil, mais dès le moral des ménages, c'est un peu la description de ce monde-là.
Oui, tout à fait. En fait, on pourrait dire que de ce que je viens de décrire, sort deux corollaires principaux. Le premier, c'est le monde auquel je m'intéresse à travers mes romans, qui est principalement celui de la classe moyenne et de ce qu'on fait subir à la classe moyenne. Donc, la mondialisation, le capitalisme financier, le monde de l'entreprise et du pouvoir, puisque si à un moment je voulais décrire les humiliations de mon père, il fallait bien que je parle de l'entreprise, et parlant de l'entreprise, il fallait bien que je parle de la façon dont celle-ci fonctionne, opère, les logiques internes, la cruauté, la hiérarchie, les rapports de force, et puis au-dessus de ça, encore plus puissant, la mondialisation, la globalisation et tout ça. D'ailleurs, au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon travail, c'est comme si je partais du plus petit pour aller vers le plus grand, puisque si je fais démarrer ça au moral des ménages, en mettant un peu de côté Demi-sommeil, qui est un livre un peu comme ça autobiographique, comme souvent les premiers romans, mais le moral des ménages, c'est vraiment, j'étudie vraiment comme un entomologiste une famille de la classe moyenne dans sa cuisine, puisque la cuisine est le lieu central de ce roman, avec ses dîners familiales et le père comme ça un peu malmené par la vie, et le fils qui finit par manifester comme ça cette espèce de violence conteste en fait voilà. Et puis de livre en livre, après il y a Existence où c'est un cadre un peu plus supérieur que je comme ça mets à la torture à travers un roman un peu sadique, et puis Cendrillon où là c'est plus le capitalisme financier que j'explore avec mon écriture, et puis le système Victoria qui vient achever cette trajectoire. Donc, au cœur de mes romans, il y a effectivement ça, la description du monde contemporain, parce que c'est mon histoire et que j'ai envie de partir de là. Et puis, ça c'est le premier corollaire. Le second, c'est que c'est toujours à travers une écriture extrêmement sensible. Je pars toujours du sensible. C'est ce qui peut aussi me distinguer d'un écrivain comme Houellebecq. On nous rapproche souvent dans les articles, soit pour soit d'ailleurs pour me grandir, soit pour me rabaisser. Il y a les deux cas. C'est jamais neutre, en fait. S'il y a parfois des commentateurs qui disent que comme Houellebecq, je m'intéresse aux classes moyennes, mais voilà, le point commun entre lui et moi, c'est ce terrain d'exploration. Mais à l'inverse de Houellebecq, je mets toujours au point des dispositifs qui abordent ce sujet-là de la classe moyenne à travers des points de vue extrêmement précis et singuliers, à travers des dispositifs très très subjectifs comme ça. Voilà.
Alors, il y a une chose commune, enfin, il y a plein de choses communes à ces cinq livres, mais notamment l'usage du présent. Tous vos livres sont quasiment écrits au présent, ouais. même si ils sont dans la remémoration d'une histoire dramatique, le système Victoria l'est également au présent, même si David Kolski se remémore sa liaison avec Victoria. Tous vos livres, pourquoi l'usage du présent à chaque roman?
Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que très tôt, j'ai cherché un sens à ma vie à travers la sensation. Il est très important pour moi d'éprouver le plus souvent possible le plus de sensations possibles. C'est vraiment ma pratique du réel. Je me suis élaboré à l'adolescence de cette façon-là quand d'autres, par exemple, pourraient souhaiter, je ne sais pas moi, aller davantage vers la connaissance, l'apprentissage. Et je ne dis pas que c'est une panacée de vivre comme ça dans le présent, mais c'est vrai que et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en scène dans une scène précise dans Cendrillon. Quand je suis arrivé à Paris pour faire mes études, j'étais tout aussi effrayé par le monde, l'avenir et ce que je pouvais devenir que lorsque j'étais chez mes parents. Et je décris une scène où le narrateur, Eric Einhardt, car je me mets en scène moi-même dans ce roman, dit qu'il est condamné à vivre au présent parce qu'il veut oublier d'où il vient. Il est complexé par ses origines sociales. Il sent autour de lui une ségrégation. Il sent qu'il est rejeté par un certain milieu en raison de ses origines sociales. Il n'ose penser à son avenir, si ce n'est à travers les rêves qu'il peut avoir, et dont il craint qu'il ne puisse pas les réaliser. Et donc ce personnage, l'adolescent ou le jeune adulte que j'étais, était condamné d'une certaine façon à vivre au présent. Et à tirer du présent la force et la foi de vivre et de faire des choses. Il y a une phrase de Balzac qui est célèbre et que j'aime beaucoup. Il dit que si la foi est utile et indispensable à la vie religieuse, elle est encore plus indispensable et utile dans la vie sociale. C'est-à-dire que pour se réaliser, il faut vraiment avoir la foi. Et lorsqu'on est un adolescent venant d'un lotissement de banlieue et qu'on veut devenir écrivain et qu'on peut se heurter comme ça, en tout cas c'est ce que j'ai eu le sentiment de vivre à certains moments, à une sorte comme ça de scepticisme autour de soi, parce qu'on n'a pas la culture, parce qu'on n'a pas les codes et tout ça, la ferveur et la foi, on la trouve dans le présent. Et c'est précisément ça que j'ai envie de faire avec mes romans. Je pense que ça vient de cette pratique comme ça du réel, ce qui n'exclut pas la pensée, bien évidemment. Un apprenti philosophe consacre la plus grande partie de ses journées à accumuler des connaissances et à réfléchir, ce qui ne l'empêche pas d'éprouver des sensations. Moi, à l'inverse, il était très important pour moi de me sentir riche comme ça de l'intérieur, ce qui ne m'empêchait pas d'avoir quelques petites pensées et idées. Mais cette ferveur que je pouvais puiser dans le présent, elle m'aidait comme ça à élaborer mes livres quand j'ai commencé à écrire. Et en réalité, j'attends de mes livres, tels que je les écris, qu'ils me procurent à moi et au lecteur autant de sensations que le monde peut me permettre de vivre. C'est comme une espèce de mise en abîme ou de renversement. J'élabore mes livres de telle sorte qu'ils deviennent comme des espèces de petites machines à produire des sortilèges ou des enchantements. C'est comme ça que je les fantasme, en tout cas. Je suis absolument incapable d'écrire des livres où aucun de mes romans, par exemple, ne procède par récapitulation, où il n'y a pas de point de vue surplombant, jamais. Le début du système Victoria, j'aurais très bien pu décrire la rencontre de David et de Victoria dans la galerie marchande en disant quelque chose du type David Kowalski, un jour, en sortant de son travail, alors qu'il allait dans une galerie marchande pour acheter un cadeau pour l'anniversaire de sa fille, a rencontré une femme absolument extraordinaire qu'il a suivie pendant 3 heures. À sa grande surprise, elle a accepté de lui parler lorsqu'il l'a abordée. Ils se sont plu, ils se sont échangé leurs cartes. Quelques semaines plus tard, ils se sont revus pour dîner à Londres. Ils ont passé la nuit à faire l'amour. C'était merveilleux. Voilà. Ça, en étant bien écrit, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qui ne m'intéresse sans doute pas de faire, et surtout que je ne sais sans doute pas faire. C'est-à-dire que parfois, lorsque je m'entretiens avec des amis écrivains, je leur dis que je ne sais absolument pas comment on écrit un roman. Ça peut paraître étrange de dire ça, mais je le pense très profondément. C'est-à-dire que à chaque fois que l'idée d'un livre me vient et que j'envisage de l'écrire, voire quand je me mets à le rédiger, je suis absolument démuni. Je ne sais pas comment on écrit un roman. Je ne sais pas. Et chaque roman est la solution trouvée à cette incapacité d'écrire un roman selon les règles, en fait. Alors qu'il paraît facile, la plupart des romans sont écrits selon des règles établies. Et moi, je ne sais pas faire. Donc, chaque forme élaborée pour chacun de mes livres, et on reviendra sur la question de la forme, j'imagine, est comme ça une solution qui me permet d'écrire le livre, mais en fonction de règles qui seraient comme inventées pour la circonstance. Et donc, pour revenir sur le système Victoria et cette rencontre de David et de Victoria, eh bien, ça prend 25 pages. Et il est très important pour moi, sinon je ne vois pas l'intérêt de l'écrire, d'être au plus près de l'instant et des moindres vibrations de ce qui se passe entre un homme qui est comme ça happé par la beauté ou la puissance magnétique d'une femme qu'il croise comme ça dans un espace public et qu'il éprouve soudain l'envie irrépressible d'aborder parce qu'il lui semble que s'il la laisse partir, quelque chose qui pourrait se produire, eh bien, ne se produira pas et créera un manque terrible. En tout cas, il pourra avoir comme ça la peur qu'il aurait pu se passer quelque chose de fondamental. Eh bien, ça, j'ai envie de l'exprimer, de l'intellectualiser, mais de le montrer à travers des gestes, à travers des présences. Pour moi, rien n'est plus important que l'incarnation et que des situations s'incarnent telles qu'on peut tous les vivre par l'écriture et au plus près de ce qu'on peut ressentir. C'est pour moi quelque chose de très important. Et il y a différentes façons de communiquer, des choses à un lecteur par ce qu'on dit en l'intellectualisant. Lorsqu'on dit par exemple qu'un des personnages éprouve telle sensation ou éprouve du désir pour telle femme ou qu'il a faim, voilà, donc ça c'est une information qui est transmise au lecteur par une phrase claire, mais il y a aussi, il me semble, beaucoup de choses qu'on peut faire passer au-delà du langage, par la forme, par des vibrations, et ça c'est quelque chose de très important pour moi. Ma pratique de la littérature, elle se définit comme ça, et effectivement je pense qu'elle trouve sa racine dans ce que j'ai décrit tout à l'heure, à savoir que ma relation au monde voilà, et au réel repose là-dessus, le sens par l'essence en quelque sorte.
Oui, alors le roman chez vous comme producteur de sens et de sensations à travers la forme. Je suis retombée dans Demi-sommeil sur une phrase d'ailleurs de votre narrateur, apprenti écrivain, enfin qui va tenter tout au long du livre à la fois de se remémorer une histoire d'amour et en même temps il fait l'expérience du deuil de l'enfance, et à un moment il dit: il me semble que j'arriverai à écrire le jour où j'aurai compris qu'il ne faut pas essayer d'écrire le livre rêvé, mais sacrifier le livre rêvé pour écrire un simple livre. Or il est bien difficile, je crois, d'apposer le qualificatif de simple à vos livres, parce qu'il y a un véritable travail formel, d'ailleurs une sorte de montée en puissance à chacun de vos romans. Et vous dites d'ailleurs vous-même: écrire, c'est créer une forme. Alors, est-ce à dire que tant que vous n'avez pas la forme, le livre ne peut pas être écrit, ne peut pas...
Oui, effectivement, chacun de mes livres voilà, procède d'une forme. Il faut effectivement qu'il y ait une idée de forme pour que je puisse me mettre à écrire, c'est absolument fondamental. Et chaque livre possède une forme très caractérisée et très précise et pensée, même si la plupart du temps, l'idée advient comme ça par une fulgurance, quoi, en un éclair. J'entretiens une relation très compliquée à l'écriture, un peu angoissée. J'ai toujours, alors ça, c'est encore une fois, ça vient sans doute de ce que j'ai dit, enfin de mon adolescence et de ce que j'en ai dit tout à l'heure. Mais pour moi, la littérature et le livre a toujours constitué une sorte d'ailleurs, une sorte d'au-delà. J'ai toujours tellement idéalisé la littérature. J'ai passé tellement d'années à me rêver écrivain sans oser écrire que ça me paraissait quelque chose d'inatteignable, en fait, d'inaccessible. J'ai une forte tendance à idéaliser les choses, la littérature, l'amour. Mais même dans ma vie quotidienne, je m'exagère très facilement l'enjeu des choses, comme ce soir par exemple, de parler au Centre Pompidou. Et donc pour moi, écrire, c'est avant tout se transcender, se dépasser à travers une forme qui soit comme un état supérieur. Alors il y a quelques pages assez polémiques et d'une belle mauvaise foi dans Cendrillon sur vous souvenez
sur les nantis de gauche,
sur les écrivains nantis de gauche, de gauche, où à un moment le Eric Reinhardt, le narrateur de Cendrillon, vocifère dans sa salle de bain sous la douche au motif qu'il s'est fait démolir par quelques critiques littéraires, d'ailleurs écrivains, dans une émission sur France Culture. Donc je parle du moral des ménages. Et donc, voilà, le narrateur vocifère sous sa douche en disant qu'ils n'ont absolument rien compris. Et que, et voilà, il y a une espèce de diatribe comme ça contre...
Le passage. Il leur suffit de se produire par l'écriture pour que se manifeste cette chose-là qui leur est immanente, la littérature. Ils sont la littérature. L'ordre établi les a édifiés comme les seuls dépositaires de la littérature. Pour quelle raison se transporterait-il dans un autre ordre? Pour quelle raison transporterait-il cette substance immanente dans un ordre supérieur? Pour quelle raison voudrait-il transcender cette substance immanente par une forme ? L'ordre établi, je veux dire l'ordre social, sert d'ordre et de forme à leurs livres qui ne sont qu'écriture.
Voilà. À quoi Margot, l'épouse du narrateur, lui dit qu'il ne va quand même pas oser dire ça dans un colloque auquel il doit participer parce que ce sont des propos de salle de bain. Alors je ne vais pas oser, moi, vous proposer ça comme une théorie valable au Centre Pompidou. Mais je pense qu'il y a, il y a quelque chose d'assez, d'assez juste dans cette intuition de mon narrateur. Et à un moment, il dit que une pensée qui est venue une fois, si elle est belle, mérite d'être énoncée, même si elle est fausse. Et je pense qu'elle est, elle est en partie vraie. C'est vrai que moi, cette chose-là que je sens en moi depuis que je suis adolescent, c'est-à-dire cet univers, parce que quelque chose que j'aurais pu dire aussi tout à l'heure, pourquoi j'ai voulu devenir écrivain lorsque j'étais adolescent, c'est que je sentais des choses en moi que j'avais envie de faire partager. Il y avait quelque chose il me semblait que que j'éprouvais des choses qui méritaient d'être dites. En tout cas, j'avais envie, moi, de mettre des mots et d'exprimer ce que je pouvais ressentir. Par exemple, c'est ce que j'ai fait dans Cendrillon par rapport à l'automne ou au temps. Ces choses-là, j'avais envie de les exprimer, d'écrire des pages sur ce qui m'était le plus important, sur ce qui m'était le plus cher. Et d'une certaine façon, d'exprimer son unicité. Je pense que d'une manière ou d'une autre, beaucoup d'écrivains écrivent pour établir qu'ils sont uniques et qu'ils ne ressemblent pas aux autres et faire partager ça à ses lecteurs afin que ses lecteurs puissent se dire en partageant cela avec leur écrivain, l'écrivain qu'ils lisent, afin qu'ils puissent se dire aussi qu'ils ont une relation unique et belle au monde. Mais simplement, moi, cette chose-là, ce désir ardent que je pouvais avoir d'exprimer ce que j'avais de plus intime et de plus cher, il me semblait que ce n'était pas possible de le laisser s'écouler comme ça sur la page, qu'il y aurait quelque indécence ou que j'étais pas assez, je n'avais pas la valeur intrinsèque qu'il fallait pour que cela soit juste comme ça. Mais qu'il fallait, comme un bijou, qu'il y ait une armature autour, que ce soit magnifié, que ce soit transcendé, dépassé, à travers une forme, justement. Et donc, alors là, dans cette diatribe de mauvaise foi du narrateur dans sa douche, il se dit, mais les écrivains qui n'ont pas peur du monde, les écrivains qui ont toujours été confortés par leurs parents dans cette assurance qu'ils étaient les meilleurs, les plus beaux, les plus riches, les plus intelligents, et qui ont la culture et qui ont la légitimité en quelque sorte, eh bien, il leur suffit de se laisser s'écouler sur le papier, un peu comme si ils s'ouvraient les veines et que leur sang comme ça s'écoulait, et cette la littérature qui leur a été inoculée depuis leur plus tendre enfance, qui constitue une forme d'immanence, eh bien, il suffit comme ça de s'ouvrir les veines, et puis la littérature coule, et ils appellent ça la langue. Voilà, c'est le propos de salle de bain, donc d'Eric Reinhardt, narrateur de Cendrillon. Alors que moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait absolument pour qu'il se passe quelque chose sur ma page, qu'il se passe quelque chose, que ce soit pas bon pour aller à la poubelle, que le plus important, c'est qu'il y ait une forme, voilà, et qu'il y ait d'une certaine façon un ordre supérieur vienne me permettre de m'élever. Et par ailleurs, c'est aussi une façon, parce que écrire un livre, c'est passer 2 ou 3 années d'une manière complètement obsessionnelle dans un monde comme ça. C'est aussi d'une manière complètement utopique, substituer à l'ordre établi dans lequel on vit un autre ordre qui est un ordre qu'on s'invente soi pour la durée de l'écriture du livre. Et c'est vrai que pendant les 2 ans et demi que j'ai passé à écrire Cendrillon, pendant les 3 ans que j'ai passé à écrire Le Système Victoria, eh bien, d'une certaine façon, c'est comme si je ne vivais plus dans la réalité avec cet ordre établi que je ne cesse de contester avec mes livres, mais dans un autre ordre que je m'invente moi-même et que je trouve plus beau, en tout cas que j'efforce.
Tout en étant extrêmement ancré dans la réalité.
Tout en étant extrêmement ancré dans la réalité, mais c'est une forme d'évasion. En fait, j'écris aussi pour m'évader, j'écris aussi pour échapper au monde dans lequel on est, à la peur. C'est une façon de conjurer tout un tas de choses de cet ordre. Et être heureux en réalité, puisqu'on ne pense, je pense qu'on ne dit jamais assez que créer, écrire, c'est vivre en fait. Pour les artistes, ça remplace la vie d'une certaine façon. Je me souviens d'un très bel entretien du chanteur et auteur-compositeur Bertrand Belin, que j'admire énormément. Et qui décrivait son enfance et son adolescence absolument terrible dans le Lupin prolétariat, enfin vraiment avec beaucoup de violence, je crois, et l'alcoolisme, et enfin toutes ces choses. Et il dit très clairement dans cette interview qu'il aurait pu devenir délinquant, enfin basculer vraiment dans la délinquance, et qu'il a été sauvé par la guitare. Et que d'une certaine façon, la musique est juste un moyen d'occuper le temps. Et je trouve cette phrase incroyablement profonde, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, Bertrand Belin, il a compris que soit il basculait dans une espèce de nulle part qui aurait pu être dangereux, soit je ne sais pas, mais il pouvait aussi faire de la guitare, et c'est une façon de tenir, une façon de résister, mais en passant le temps, en fait. C'est vrai que voilà, on oublie la misère et on vit dans la création. Et donc, un écrivain rend sa vie plus belle qu'elle ne le serait s'il n'écrivait pas, en se construisant des châteaux, en fait, et donc d'une certaine façon, moi, ces formes comme ça que j'élabore sont comme des ailleurs où je parviens à me hisser pendant quelques mois, même si elles me donnent aussi souvent beaucoup de soucis, parce que qui dit forme dit contrainte. Et je me souviens que dans Cendrillon, j'utilise plusieurs fois l'expression juridiction intransigeante. Et c'est vrai que à chaque fois, ce sont des juridictions intransigeantes.
Il faut peut-être rappeler, parce que c'est sans doute celui en termes formels où il y a eu avant existence, sur lequel on reviendra un tout petit peu, qui est sans doute le plus expérimental de vos romans.
Et c'est celui dont la juridiction était la plus. Là, ça confinait au despotisme, en fait.
Et c'est vrai que Cendrillon, c'est à la fois une autofiction, puisque c'est Éric Reinhardt, le double d'Éric Reinhardt qui parle, et qui imagine les 3 vies qu'il aurait pu avoir si il n'avait pas rencontré Margot. Et on va voir qu'au fil du roman, à la fois on a le fil, je dirais, auto-fictionnel, et en même temps on a les 3 vies, c'est-à-dire soit un trader, soit un chômeur de longue durée, soit un érotomane. Une sorte de projection si Éric Reinhardt n'avait pas rencontré Margot, et j'ai envie de dire si Éric Reinhardt n'avait pas rencontré l'écriture aussi.
Oui, en tout cas, si un certain nombre de choses qui se sont produites dans ma vie ne s'étaient pas produites. Voilà. Mais là, en fait, par rapport à cette forme-là, l'histoire est assez intéressante, puisque mon idée de départ était d'écrire une sorte de d'art poétique. J'avais envie d'écrire un manifeste. Je voulais, d'une certaine façon, après 3 romans, et traversant une crise de la quarantaine assez virulente et aiguë, Donc j'allais pas très bien. Il me semblait que je n'étais pas reconnu avec les trois livres que j'avais publiés à ma juste valeur, ou en tout cas comme il me semblait que je devais l'être, même modestement. Et puis surtout, il me semblait ne pas avoir été compris, y compris par les journalistes et critiques littéraires qui m'étaient le plus favorables, à part toi. en tout cas, il me semblait qu'on ne parlait pas dans les articles de ce qui était le plus important pour moi. Et par exemple, le présent. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est absolument évident que les trois premiers livres que j'ai publiés sont tous écrits au présent et suivent tous d'une manière extrêmement comme ça, presque minutée, à travers un fantasme de temps réel, les pérégrinations, les mésaventures, ce nombre de personnages. Et voilà, j'avais cette idée d'écrire une espèce de manifeste qui dirait qui je suis. Et par ailleurs, je voulais aussi raconter tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur mon extraction sociale, sur le fait que je m'étais heurté, ou il m'avait semblé me heurter à un moment de ma vie à une résistance comme ça du milieu littéraire très bourgeois par rapport à ce que je pouvais représenter moi. Donc il y avait la question de la ségrégation sociale aussi, avec cette phrase de Hannah Arendt qui dit que dans les années 20, qui disait que la ségrégation sociale était tabou, mais qu'elle existait, et que la plupart des gens dans la société, la question qu'ils se voyaient poser implicitement, c'était qu'est-ce que vous êtes, et non pas qui êtes-vous. Et elle dit que la seule réponse possible à la question « qui êtes-vous » c'est « je suis unique ». Et que bien évidemment, les gens ne le répondent pas parce que c'est ridicule, dit Hannah Arendt. Eh bien, je voulais braver le ridicule d'expliquer par rapport à cette question de la ségrégation sociale et du déterminisme social que je voulais mettre au cœur de ce manifeste. Je voulais braver le ridicule en disant qui j'étais et en expliquant pourquoi j'étais unique et pourquoi les livres que j'avais écrit jusqu'à présent, elle était de cette façon et pas d'une autre, et que c'était logique et que ça provenait de ce que j'avais vécu, de mon relation donc au réel, mon extraction sociale et tout ça. Et d'où Cendrillon, puisque Cendrillon, au bord de l'âtre, comme ça, malmené par ses sœurs, n'aspire qu'à une chose, c'est être considéré, être reconnu pour ce qu'elle est, c'est-à-dire unique. Et comme ça, parvient à rayonner au bal jusqu'au minuit fatidique de Mallarmé. Et voilà, et nous aspirons tous à vivre ces moments où nous rayonnons et où nous sommes acclamés et reconnus pour ce que nous sommes, c'est-à-dire uniques. Mais il m'avait semblé que, à l'endroit, au moment où j'en étais de ma carrière littéraire, c'était peut-être malvenu d'écrire ce livre comme ça, genre regarder comme je suis unique, et donc je me suis dit que c'était pas possible, je pouvais pas oser faire un truc pareil, et donc j'ai compulsé dans mes carnets, j'ai regardé dans mes carnets quelles étaient les autres idées que je pouvais avoir, et j'ai comme ça trouvé trois histoires qui étaient dans mes carnets depuis des années, et dont je m'étais toujours promis un jour de faire des romans. C'était l'histoire de Nick Leeson, le trader qui a planté la Barings suite à des spéculations malheureuses réalisées à Singapour qu'il a voulu dissimuler, et en respéculant, et finalement tout ça a mal fini, et l'une des plus vieilles banques d'Angleterre.
Et après qu'on a d'ailleurs on a lu Cendrillon comme un livre prémonitoire, puisqu'il annonçait
l'affaire Kerviel n'était qu'une répétition en quelque sorte de l'affaire Nisson. Et puis il y avait les pages du journal de Richard Durne que je trouvais à la fois affreuse, mais évidemment Richard Durne étant le tueur de Nanterre. Et puis une histoire qu'on m'avait racontée, une amie m'avait racontée d'un érotomane qui vivait dans une cave au Palais Royal et passait ses journées à se masturber en regardant des images pornographiques. Et puis surfer sur Internet et tout ça. Et j'ai passé des semaines à hésiter entre ces quatre livres. Et à un moment, j'ai eu un déclic. Je me suis dit que si je n'arrivais pas à choisir entre ces quatre livres, c'est certainement qu'il fallait que je les écrive tous les quatre ensemble et que je les réunisse. Et là, je me suis dit, mais pourquoi réunir dans un seul ouvrage quatre histoires qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres? Et ça, ça m'a encore pris quelques semaines. Et j'ai eu un second déclic qui était que si je voulais écrire ces histoires avec la même urgence, c'est-à-dire que j'étais incapable de choisir, c'est que d'une certaine manière, j'avais la même implication dans chacune d'elles. Et que donc, j'étais Nick Leeson, j'étais Richard Durne, j'étais Satter Ottoman et j'étais Rick Reinhart, l'écrivain unique de son manifeste. Et je me suis dit, très bien, donc c'est quatre modalités différentes de ma propre personne, donc quatre possibles, c'est-à-dire que c'est quatre, j'aurais pu devenir Nick Leeson si après mon école de commerce je m'étais orienté vers la finance. Je vois bien comment j'aurais pu me retrouver dans une situation comme ça, ou celle de Kerviel par exemple. Richard Durne, je vois très bien aussi comment à un moment un être normal, plutôt intelligent, puisque Richard Durne était quelqu'un de considéré comme vraiment intelligent, enfin, ses anciens professeurs et tout ça témoignaient, bon, c'était un très bon élève qui à un moment, on ne sait pas trop pourquoi, a quitté le chemin et fait payer à la société l'injustice de son destin. Et puis c'était Ottoman. Et je me suis dit, mais voilà, le concept du livre, sa forme, c'est qu'est-ce que j'aurais pu devenir si je n'avais pas rencontré Margot à 23 ans. Et je me suis mis à écrire le roman. L'enfance et l'adolescence de ces quatre personnages sont donc les mêmes. Et à un moment, leur destin, donc après un événement tragique, qui advient dans la famille, en l'occurrence le suicide du père, eh bien, y a l'un de ces adolescents qui fait le choix de devenir écrivain et qui devient moi, l'autre qui continue ses études de commerce et se lance dans la finance, qui devient Nick Leeson, un qui ne se remet pas du suicide de son père et reste avec sa mère veuve et anéantie dans son pavillon de banlieue, prend 30 kilos, regarde la télé toute la journée, boit des bières et devient une espèce de monstre qui veut faire payer à la société la situation dans laquelle il se trouve et qui fomente le projet de débarquer sur le plateau d'un talk show en direct et de tuer les personnes qui sont invitées, les artistes comme ça qui font la promo de leur disque et de leur film, et de se suicider en direct. Et puis, dernier personnage qui, comme ça, fait le choix de plutôt faire profil bas et va se cacher après un diplôme de géologie dans une entreprise en Allemagne. Et en fait, il vit sa vie par procuration en fantasmant sur Internet une vie sexuelle un peu bizarre. Voilà. Et en fait, l'idée de forme que j'ai eue, c'est qu'à aucun moment dans le livre, ceci est explicité. Et c'est en ça, tout à l'heure, quand je parlais de petites machines diaboliques à créer des sensations ou des sortilèges, avec l'ambition de transmettre une connaissance au lecteur, non par le verbe, mais par toute une série de phénomènes sensoriels à travers la matière du livre, des accidents grammaticaux, des ruptures de rythme, des anomalies, le fait que ce soit une seule et même personne n'est jamais dit. On s'en rend compte parce que les noms changent en fait. C'est-à-dire que pendant la description de l'enfance et de l'adolescence, on passe d'un chapitre à l'autre et les patronymes changent. Mais on voit bien que c'est à peu près le même environnement, le même contexte. Le père est à peu près pareil, la mère aussi. Et puis comme ça, les noms changent imperceptiblement avec ce désir que je pouvais avoir de créer à un moment un vertige et que le lecteur sente que le sol se dérobait sous ses pieds. Et ça, ce sont des choses qui sont très importantes pour moi. C'est d'arriver comme ça, par mes textes, à propulser le lecteur dans un état donné parce qu'il sent qu'il se passe quelque chose d'étrange. Et donc, à la fin, lorsque chacun a vraiment pris son autonomie et qu'on peut vraiment distinguer Laurent Dalle, Patrick Neftel, Thierry Troeckel et Eric Reinhardt, eh bien, il continue comme ça d'y avoir, entre ces quatre lignes narratives, des clignotements, des lueurs. Eric Reinhardt est fasciné par Mallarmé et le hedge fund, donc le fonds spéculatif créé à Londres par Laurent Dalle, s'appelle Ligiture. Voilà, ce genre de choses. Oui, d'ailleurs, Patrick Neftel, le terroriste, se met à un moment à taguer des vers de Mallarmé sur les murs de sa banlieue, puisque un jour, il découvre dans une armoire de sa chambre un vieux carton avec une copie de français très brillante qu'il avait oubliée. Et puis comme ça, il fouille, il trouve un livre de Mallarmé, il se met à relire Mallarmé et à être une nouvelle fois, après l'anéantissement de sa vie intérieure, il se remet à éprouver énormément de bonheur à lire les vers de ce poète et il décide comme ça de les taguer sur les murs de la ville. Donc voilà, il y a tout cet ensemble comme ça de liens et de parenté qui se manifestent par des signes comme ça sporadiques comme des clignotements réciproques comme des feux réciproques comme disait Mallarmé et le tout étant de créer une sorte d'espace mental avec des lignes comme ça qui ont chacune une tessiture très différente, une atmosphère très différente, une écriture aussi. C'est-à-dire que la façon dont je me raconte dans Cendrillon n'est pas la même que celle par laquelle je mets en scène Laurent Dalle à Londres lorsqu'il spécule sur la valeur d'une action. Et c'est la relation comme ça, entre presque physique, entre ces plastiques, disons, entre ces différentes lignes narratives, qui crée le livre en fait et je me souviens d'avoir beaucoup pensé, il y a deux phrases auxquelles j'ai beaucoup pensé en écrivant ce livre, des phrases d'artistes que je connais bien, une phrase de Christian de Porzamparc qui m'expliquait comment il avait conçu l'ambassade de France à Berlin. Il disait que la parcelle sur laquelle devait construire l'ambassade était extrêmement petite et qu'il avait peur comme ça d'une sensation d'enfermement et que la solution qu'il avait trouvée c'était de faire chacun des murs de l'ambassade avec une matière et une écriture, un vocabulaire complètement différent, avec un mur très blanc, un autre avec un béton plutôt granuleux et tout ça, et que chaque paroi réagissait l'une avec l'autre et dans le fond agrandissait l'espace. L'espace se dilatait grâce au contraste entre les différents éléments de cet ensemble architectural. Et cette phrase, moi, je l'ai trouvée absolument extraordinaire. Et je me suis dit, j'ai envie de faire la même chose. Je veux que dans un livre, on puisse avoir la manifestation de ça. C'est-à-dire, et là, je voulais que quatre lignes narratives, très différentes dans leur facture, dans leur logique interne, contrastent les unes avec les autres pour créer un espace qui se dilate. Et en fait, c'est un espace mental qui est en fait mon cerveau, d'une certaine façon. Et puis, une phrase d'Angin Préjocage, le chorégraphe, qui me disait que quand il travaillait une chorégraphie, il regardait entre les danseurs. Alors, bien évidemment, il regarde les danseurs et leurs gestes, mais pendant des semaines, il regarde l'espace entre les danseurs. Et pour lui, l'espace entre les danseurs est tout aussi important que le geste, et une chorégraphie s'élabore aussi en travaillant le vide. Et moi, comme écrivain, ça, travailler les vides, travailler ce qu'il peut y avoir entre des paragraphes, la rupture entre deux chapitres, par exemple, ou là, dans les écarts qu'il pouvait y avoir entre ces différentes lignes narratives, eh bien, il peut se dire énormément de choses. Et c'est là qu'un roman s'élabore et trouve aussi tout son sens et sa force.
Alors c'est bien, vous me donnez la transition, puisque vous avez parlé de Préjocage, qui est aussi présent dans Cendrillon. Je sais que vous êtes un grand lecteur, que vous nourrissez beaucoup, beaucoup de théâtre et de spectacles de danse. Je voulais savoir, sur le plan formel, justement, Comment le théâtre, la danse, vous nourrissent-ils sur le plan formel ?
Alors d'abord, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la fascination et du besoin physique. Vraiment, parce que je vais voir beaucoup de théâtre et beaucoup de danse, il y a vraiment un besoin. On va revenir à ce qui vous apparaîtra au terme de cette petite conférence comme une obsession chez moi, c'est le présent et l'incarnation. C'est-à-dire d'être dans une salle et d'avoir en face de soi quelque chose qui a lieu devant vous à l'instant présent et que vous recevez comme ça. Voilà. C'est le fantasme que je peux avoir avec mes romans, complètement illusoire bien évidemment, puisque on peut lire un roman quelques mois après qu'il eût été écrit, et puis on peut l'interrompre. Mais par exemple, si j'écris Le Moral des Ménages en un seul bloc, c'est-à-dire Le Moral des Ménages est un livre où il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas d'espace entre les paragraphes.
Ce qui est souvent le cas chez vous.
Oui. C'est-à-dire, c'est chez moi, ça renvoie.
Hormis Demi-sommeil, c'est le seul roman où vous mettez des chapitres.
Oui, mais là, c'est dans Le Moral des Ménages et dans Existence. Non seulement il n'y a pas de chapitre, mais même il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas trois lignes de blanc par moment qui viennent créer des paragraphes. Donc il y a cette fantasme chez moi d'enfermer. Le lecteur dans une forme et qu'il ne puisse pas s'en échapper et qu'il soit là à recevoir le texte et la langue frontalement avec une forme de, comme ça, de presque de brutalité. Ce qui me fascine aussi dans le théâtre, c'est que les modes d'expression sont variés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement le texte qu'on peut écouter. Mais il y a la création, la mise en scène en fait, et tout ce qui peut se passer sur un plateau et qui communique des impacts et qui frappe le spectateur, les lumières, la façon de travailler l'espace, la musique et toutes les inventions formelles possibles et imaginables. Ce qui me fascine aussi, c'est que, et d'une certaine manière, c'est vrai que je me nourris beaucoup de théâtre, de danse, d'architecture, d'art plastique, c'est que ce sont des arts où l'importance de faire évoluer les formes, de faire évoluer ces disciplines est très important. Beaucoup plus que dans le roman où on constate souvent que les écrivains, même les meilleurs et même avec de très bons livres, en fait reproduisent des conventions littéraires. En fait, il y a une forme de conservatisme dans le roman qui est souvent et la plupart du temps absent des spectacles de théâtre, de danse que je vais voir. Aujourd'hui, en architecture, on ne construit pas les immeubles comme on les construisait au temps d'Haussmann. Donc, si je m'intéresse de près à la production d'Herzog et de Meuron, ou de Rem Koolhaas, ou de Christian Porzampar, ou de Rudy Ricciotti, ou de Sejima, c'est que ces artistes-là me semblent animés avant tout par le Ouzza Hadid, par le désir de faire progresser leur art, en l'occurrence l'architecture, et d'inventer des formes qui soient complètement contemporaines et modernes. Et bien évidemment, l'architecture des années 60 ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui et ne ressemble pas à celle du XVIIIe siècle. Ça paraît une évidence pour tout le monde. On peut dire la même chose au théâtre. Moi, j'adore le travail de quelqu'un comme Marc Thaler, par exemple, qui me fascine, ou Varlikovsky, ou Pascal Rambert, ou Romeo Castellucci, des gens comme ça. On voit bien que leur spectacle ne ressemble pas à ce qu'on pouvait voir à la Comédie-Française dans les années 40. Or, dans le roman, il me semble que peu d'écrivains se préoccupent de la façon dont on peut faire avancer l'art du roman et le moderniser et faire que, à travers ses formes, il soit une expression très contemporaine. Et très souvent, moi, je me décris comme un créateur contemporain, plus que comme un écrivain. Alors, je suis écrivain, mais c'est vrai que la dimension de création contemporaine est vraiment fondamentale pour moi. Et me confronter à ces autres formes d'art, c'est-à-dire d'aller beaucoup au théâtre, de parler avec des architectes et d'échanger avec mes amis plasticiens, me fait un bien fou, me stimule extraordinairement et me pousse à essayer d'inventer des choses et de renouveler un tout petit peu l'art du roman. Et il n'y a rien qui me répugne plus que les codes et les conventions narratives, voilà, un peu éculées. Il y a beaucoup de romans qui sont écrits en fonction de ces règles, en fait.
Alors, ce qui rapprochait d'ailleurs, en termes formels, Cendrillon et le système Victoria, c'est que, je l'ai dit sur Cendrillon, c'est un autofiction qui devient mutant et qui devient une sorte de roman-monde. Et le système Victoria est un roman-monde également, puisqu'à travers la figure de Victoria, qui est une femme-monde, régie par ce qui prédomine aujourd'hui, c'est-à-dire le capitalisme financier, elle fait presque, c'est une femme qui devient forme, ou plutôt c'est la forme qui devient femme dans Victoria. J'avais envie de vous demander, est-ce que le fait de vouloir décrire le monde tel qu'il va, ou plutôt ne va pas, et les mécanismes de la mondialisation, induit-il la forme du roman monde ?
Forcément, puisqu'il s'agit de globalisation, et puisqu'il s'agit de mettre en relation des destins individuels et les effets que la globalisation, la mondialisation peuvent avoir sur ses vies et ses destins. Donc, forcément, il y a les deux dimensions. Et c'est ces deux dimensions, c'est la présence dans un même roman d'un individu ancré dans une réalité précise, avec autour la description la plus précise possible de grands mécanismes comme ça, planétaires, qui vous fait dire qu'il s'agit de roman monde. Donc oui, dans Cendrillon et dans le système Victoria, il me semblait qu'il était très compliqué de ne pas parler de mondialisation sans parler de politique, sans parler de vie sensible, sans parler de sociologie, parce que tout est lié en fait. Et que lorsqu'on parle de je ne sais pas, de délocalisation, lorsqu'on parle de course effrénée au profit qui aboutit au fait que des patrons de hedge funds prennent la décision de fermer des usines, ça a des répercussions sur la vie intime, économique, amoureuse de tous ceux qui sont frappés par ces choses. Et moi, j'ai eu envie, peut-être davantage en Cendrillon que dans le système Victoria, encore que, de mettre en relation tout ça. C'est-à-dire que j'avais pas simplement envie d'écrire un livre qui dénoncerait le capitalisme financier, les ravages et les excès du capitalisme financier. J'aurais pu le faire. Et jusqu'à présent, les gens qui font ça le font dans des essais ou dans des romans qui se limitent à cet aspect des choses. Mais il me semblait que il fallait ça, mettre ça en connexion avec le reste. Par exemple, pourquoi est-ce que les politiques sont-ils devenus impuissants à réguler ces mécanismes ? Et si on parle de politique, il faut parler aussi d'économie et de sociologie et tout ça. Et donc c'est ça qui, au bout du compte, donne cette dimension comme ça de roman monde, où on embrasse énormément de sujets. Et moi, mon travail à l'intérieur du livre, c'est comme en cascade, comme ça, d'aller d'une considération à une autre. Le refuge possible, c'est la poésie. Donc, je parle de poésie et de Mallarmé. Voilà. Et donc, je vois très bien le lien qu'il peut y avoir et qu'on doit faire entre une relation esthétique au monde et les agissements de quelques traders isolés qui, dans un bureau climatisé à Londres, spéculent sur les valeurs de quelques entreprises dont il peut y avoir quelques usines dans le nord de la France avec des gens qui attendent en frémissant de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Voilà. Et c'est la mise en relation de ces singularités avec leur monde intérieur, avec, comme ça, présence presque abstraite, menaçante, comme ça, comme une espèce de nouvel ésotérisme que j'ai envie de mettre en scène à travers mes livres.
L'ennemi invisible.
L'ennemi invisible, voilà, de notre ami que François Hollande.
Quelque part, vous incarnez donc dans Victoria, finalement, cet ennemi n'est pas si invisible que ça, puisque le romancier Eric Reinhardt lui donne un visage.
Mais Victoria, c'est un peu différent, puisque en réalité, l'ennemi invisible serait plutôt le Randall et ses comparses dans Cendrillon, puisque eux spéculent dans leur bureau à Londres, cachés derrière des ordinateurs. D'ailleurs, entre parenthèses, l'utilité de l'écrivain, si tant est qu'il faille la démontrer, est aussi de montrer à travers des fictions et des situations très précises, c'est-à-dire avec des humains en chair et en os, incarnés dans des situations précises, comment ça se passe. Parce que quand François Hollande dit l'ennemi, c'est très abstrait et on ne se rend pas compte et on ne prend pas la mesure en réalité des dangers que ça peut représenter. Mais moi, par exemple, quand un trader auprès de qui je me suis documenté pour écrire Cendrillon, à Londres, travaillant dans un hedge fund, me dit que lorsque il mise beaucoup d'argent sur une action, en étant absolument convaincu que ça va lui rapporter beaucoup d'argent, et qu'en réalité, ça ne se passe pas exactement comme il l'avait imaginé, et qu'il commence à perdre de l'argent, et que sa pause devient vraiment incandescente, il s'appelle une pause. Un paquet d'argent qu'ils mettent comme sur un cheval, eh bien, il peut se faire qu'il passe 15 jours à regarder un chiffre sur un écran d'ordinateur. Et il n'y a rien d'autre à faire, à part quelques petites corrections ici et là pour couper leur pause. Mais encore, s'ils coupent trop leur pause et si la chose remonte, ils risquent de perdre de l'argent. Et donc, on arrive à ces situations absolument surréalistes, quoi. Qui dépasse l'entendement et notre entendement à nous tous qui avons l'habitude de travailler de manière plus classique et laborieuse. Il y a des mecs qui peuvent passer 15 jours pendant 8 heures à regarder un chiffre et voir ces petites variations, parce qu'en fait sur les écrans d'ordinateur des traders tout est en direct et ils travaillent en nanosecondes et on peut gagner des sommes absolument énormes en spéculant sur des écarts de quelques petits instants. Donc il y a des logiciels à l'intérieur de ces machines. C'est du profit automatique qui est généré comme ça. Ils n'ont rien à faire en spéculant sur des écarts, sur des de valeurs en fait, sur des temps très courts. Mais il peut aussi y avoir des traders qui passent des heures à regarder un chiffre sur l'écran d'ordinateur. Et dans Cendrillon, je montre ça. Ce trader, et là à travers cette figure là on prend conscience de l'absurdité de la chose et du fait qu'on ne peut pas laisser notre réalité sans d'une manière ou d'une autre exercer une surveillance ou poser des contraintes. Ces gens menaient le monde, quoi. Il y a quelque chose de complètement déraisonnable là dedans Victoria, c'est un peu différent puisqu'elle est le trait d'union entre le capitalisme financier et le terrain, les usines. Et c'est en ça qu'après avoir écrit Cendrillon, j'avais envie de mettre en scène une DRH, puisque je voulais voir, après avoir comme ça exploré le capitalisme financier et c'est possible, enfin c'est les méfaits avérés de cette logique-là, lorsqu'on va au bout sans discernement et sans prendre à aucun moment, sans se préoccuper à aucun moment de l'intérêt général. Eh bien, voilà, la DRH entre le capitalisme financier et le terrain, ça m'intéressait d'explorer ce segment-là et cette passerelle entre les deux. Donc, elle, effectivement, elle est incarnée. Elle est incarnée parce que ce sont des gens qui travaillent dans des entreprises et tout ça et qui sont visibles. Alors que, effectivement, ce que désignait François Hollande à travers cette dénomination d'ennemis invisibles, effectivement, la plupart du temps, sont réellement invisibles, quoi.
Alors justement, pour continuer avec Victoria, Victoria, c'est un personnage d'abord qu'on découvre dans Cendrillon. Elle apparaît brièvement dans Cendrillon, mais elle n'est pas le seul personnage qu'on retrouve comme ça de livre en livre. Il y a une sorte de comédie humaine que vous avez l'art de construire comme ça depuis Demi-Sommeil, puisque Margot, qui est la reine de Cendrillon et du double Éric Reinhardt, est déjà présente dans Demi-Sommeil. Je voulais savoir quelle relation vous entretenez avec vos personnages, qu'ils soient ou non le narrateur du roman.
D'abord, ça, c'est le fait que des personnages reviennent d'un livre à l'autre. C'est quelque chose de très important pour moi parce que ça manifeste cette chose toute simple qui est que derrière ces œuvres d'imagination, parce que la plupart de mes romans sont des œuvres d'imagination, même si elles prennent racine par certains aspects dans ma vie personnelle et dans ce que je vis. Mais ces livres, derrière, il y a un écrivain, il y a un homme, il y a un auteur. Et ça, je ne veux pas le dissimuler, c'est important pour moi de le montrer. C'est peut-être mon côté formel, art contemporain. Donc c'est une sorte de dispositif comme ça que j'élabore de livre en livre. Et c'est très important pour moi que mes livres soient tous liés les uns aux autres d'une certaine façon. Alors pas simplement par mes obsessions, par mon style entre guillemets, mais ça c'est le cas de tous les écrivains. Pas simplement par les thématiques récurrentes, mais aussi par des signes beaucoup plus saillants, visibles, qui sont des personnages, même si ils ne se ressemblent pas. Et ce serait presque comme des comédiens d'une troupe, en fait. Dans un roman, Thierry Troquel joue le collaborateur un peu facétieux de Carton Mercier qui lui fait croire qu'il doit rester en salle de réunion parce que le PDG va arriver dans quelques minutes. En réalité, ce n'est pas vrai du tout. Il lui fait une blague puisque le PDG attend Carton Mercier dans un autre bureau. Et donc, il dit à Carton Mercier, non, mais reste dans la salle de réunion, il arrive. Et voilà, une manière de se venger de ce cadre odieux qu'est Carton Mercier. Ce Thierry Troquel d'existence, on va le retrouver dans Cendrillon, dans le rôle de l'érotomane géologue qui travaille en Allemagne. Alors, ce n'est pas le même, mais ils ont le même nom. Bertrand Brochard, par exemple, est un patron d'une entreprise d'édition qui souhaite embaucher Bruno Stepfer dans Demi-Sommeil. Et on le retrouve PDG de la firme qui emploie Carton Mercier.
Non, mais ça va même plus loin que les personnages, puisque tout à l'heure, vous racontiez brièvement l'enfance des trois avatars de Cendrillon, et c'était l'enfance commune du double Éric Reinhardt. Mais finalement, c'est le moral des ménages. Toute cette enfance, c'est... en fait, vous avez, entre guillemets, recyclé le moral des ménages.
J'ai complètement recyclé
dans Cendrillon.
Le moral des ménages, puisque... En fait, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai raconté comment m'était venue l'idée de Cendrillon. Et donc, quand j'ai eu cette idée à ma troisième illumination, donc, et je me suis dit, ça y est, j'ai mon livre. J'ai commencé à vouloir l'écrire. Et vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait à peu près 3 semaines, 1 mois entre les illuminations. Et là, j'étais super heureux d'avoir ma dernière illumination et je me suis mis à l'écrire. Et là, j'ai eu une panne sèche. C'est-à-dire que c'était absolument horrible ce que j'écrivais. Ça ne marchait pas. Et là, ça a repris 3 mois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'étais en forme il y a 15 jours et là, ça ne marche plus. L'expérience, parce que je commence à avoir un peu d'expérience avec 5 livres, montre qu'on ne devient pas fatigué du jour au lendemain et que lorsqu'on n'arrive plus à écrire, c'est qu'en général, il y a une raison profonde et qui est souvent une raison formelle, en fait. C'est pas possible, on ne perd pas l'inspiration, on ne devient pas nul en 15 jours. Donc, quand je me heurte à des difficultés d'écriture, j'ai appris, au lieu de me morfondre et de dire que je suis fini et que je vais me jeter dans la Seine, j'ai appris à essayer de trouver la raison de cette impuissance dans des raisons formelles, en fait. C'est-à-dire quelque chose qui ne va pas. Et là, en l'occurrence, je me suis rendu compte que si je n'arrivais pas à écrire l'enfance et l'adolescence de mes personnages, de Cendrillon, c'est que je l'avais déjà fait dans Le Moral des Ménages, puisque je n'avais pas à me dissimuler à moi-même que c'était ma propre histoire que je voulais raconter, donc mon enfance et mon adolescence, et sauf que j'avais déjà fait. Donc j'essayais de faire mon Philip Roth, je ne sais pas quoi, d'inventer une espèce de fausse enfance et une fausse adolescence pour mes personnages qui ressemblerait vaguement à la mienne, mais qui ne serait pas la mienne, et donc ça, c'était vraiment nul. Donc je me suis dit, tu l'as fait, c'est pour ça que tu n'arrives pas à le faire autrement, légèrement différemment, donc ne le cache pas, ne le dissimule pas, assume-le, et de manière extrêmement visible. Et donc là, peut-être que ma pratique de l'art contemporain et mes fréquentations assidues avec des artistes des disciplines que j'ai évoquées tout à l'heure ont pu m'aider et peuvent m'aider, même m'inciter à avoir ce genre de démarche. Je me suis dit, je vais appeler sur mon ordinateur Le Moral des Ménages et je vais repartir du Moral des Ménages. Et j'adorais cette idée. J'ai appelé Jean-Marc Roberts tout de suite et je lui ai dit que j'avais une idée absolument géniale et tout ça. Et que j'allais rewriter Le Moral des Ménages pour en faire un nouveau roman. Bon, il a sans doute été un peu inquiet, mais il me l'a dissimulé. Et donc, j'ai enlevé du Moral des Ménages tout ce qui ne concernait pas l'enfance et l'adolescence. Et puis je suis reparti de cette matière-là, si bien que dans Cendrillon, des lecteurs attentifs relèveront qu'il y a des passages entiers, des lignes de dialogue, des situations qui sont rigoureusement identiques, simplement c'est réécrit. Et c'est réécrit non parce que j'ai prouvé le besoin de maquiller ce que j'avais fait, cet emprunt, cet auto-emprunt, mais parce que le ton de Cendrillon et son économie narrative appelait une autre forme d'écriture, en fait. Donc j'ai simplement adapté, comme on prendrait une personne et on lui changerait, on la relookerait pour être plus conforme à une situation à laquelle elle doit se présenter. J'ai un peu relooké Le Moral des Ménages pour raconter l'enfance et l'adolescence de mes personnages. Mais ça... C'est d'abord, ça m'a permis d'écrire Cendrillon, mais en plus, j'étais très heureux de cette idée, puisqu'elle allait dans le sens que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il est très important pour moi que tous mes livres, d'une certaine façon, se tiennent par la main. Et même, je prends toujours soin, par exemple, dans le Stem Victoria, j'ai déjà, comme ça, essaimé.
On a déjà les personnages du
roman. Non, mais des lieux, prochain. Par exemple. Je sais que tous les projets ou toutes les idées, ou toutes les intuitions de livres que je peux avoir pour la suite, j'ai mis les graines déjà dans le système victorien.
Mais
justement, et donc, certains lecteurs, dans 2, 3 ou 5 ans, lisant mes livres à venir, diront « Ah, mais tiens, c'est pour ça qu'il y avait l'église de la Sainte Trinité dans le système Victoria. » Et voilà, c'est pas des hasards. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, en fait, c'est une sorte de superstructure que je suis en train d'élaborer, comme si chacun de mes livres était relié par tout un ensemble de tubes, de réseaux et tout ça. Et donc, effectivement, quand Victoria de Winter est né sous ma plume dans Cendrillon.
Est-ce que vous avez conscience à ce moment-là du potentiel romanesque? C'est-à-dire que vous dites...
Parce mais en
que
fait, l'idée m'est venue de là. J'ai trouvé ça assez génial. Alors, elle apparaît dans Cendrillon sur un autre mode que dans le système victorien. Que dans le système victorien. Puisque les quelques lignes qui lui sont consacrées sont assez enlevées et assez drôles. Enfin, c'est vraiment sur le mode de la satire qu'elle est traitée, puisque elle est déchaînée dans une chambre de l'hôtel du Louvre et hurle de plaisir et tout ça. Et c'est assez, outrancier. Mais j'ai aimé ce personnage et cette relation que je pouvais faire à cet endroit de Cendrillon entre son ultra-libéralisme et son voracité en fait. Et le fait que ce personnage-là, comme ça, qui ne faisait qu'une brève apparition dans Cendrillon, j'avais envie de développer ce personnage. Et effectivement, je me suis posé la question quand j'ai commencé le système victorien, mais très brièvement, puisqu'en fait, même s'ils sont assez différents, l'idée de la faire réapparaître sous son nom, sous son vrai nom, puisqu'elle est née dans Cendrillon, ça m'a beaucoup plu en fait.
Alors, je vois que nous nous approchons de la fin, donc je voudrais quand même laisser un peu de temps au public pour poser des questions à Éric Reinhardt.
Ah, et les photos. Mais oui.
Ah oui. Alors en même temps, vous avez posé vos photos. C'est vrai que nous avons oublié les photos. C'était pour un peu illustrer justement le rapport que Éric Reinhardt entretient avec ses personnages, et notamment dans Existence, qui est vraiment un livre tout à fait particulier, moi pour lequel j'ai une grande tendresse parce que je l'ai relu et j'ai ri autant qu'à la première lecture. C'est un livre assez, assez fou, un livre très expérimental, dans lequel, je crois que vous pouvez commenter, Eric, ouais. Dans
c'est
lequel
vrai
sont
que
insérées des photos des personnages d'Existence.
C'est le livre avec lequel je suis sans doute allé le plus loin dans mon goût de l'expérimentation formelle. Et donc, dans la façon dont le livre est construit, en entremêlant comme ça en permanence des dimensions spatio-temporelles, que dans cette idée que j'ai eue d'y adjoindre des photographies, l'idée c'était que, comme je vous ai dit tout à l'heure, au théâtre ou dans des spectacles de danse, Le metteur en scène ou le chorégraphe n'ont pas seulement leur écriture et l'écriture des corps ou le texte et la façon dont le metteur en scène peut faire dire ce texte à ses comédiens. Il y a tout un ensemble de choses relevant de l'expression sensible qui peuvent venir enrichir le propos, comme la lumière et la musique par exemple. L'écrivain n'a pas ça, et je me suis dit que j'avais envie dans un roman de créer une dimension supplémentaire qui viendrait comme ça frapper le lecteur. Il n'y a pas de lien direct entre les photographies et la narration, si ce n'est que je souhaitais que ces photographies créent une espèce de climat dans le livre. Donc lorsqu'on tourne la page, on tombe comme ça sur ces photographies qui, dans le fond, donnent à voir et à sentir l'extrême paranoïa justifié par ailleurs de Cartier-Mercier, puisqu'il est devenu en raison de son comportement méprisant et méprisable l'objet de l'hostilité de la quasi-totalité de ses contemporains, et il est enfermé dans son immeuble suite à une mise à pied, et il se promène comme ça dans les couloirs et toutes les personnes qu'il croise le regardent avec une sorte de haine comme ça, et il se sent donc en fait ce sont des photographies que j'ai réalisées donc l'idée m'est venue de poser moi en me déguisant et en incarnant comme ça non pas des personnages du livre mais d'une certaine façon
qui s'inspirent quand même de
Oui, qui s'inspire, mais c'est surtout l'autre que je voulais incarner. L'autre, par rapport à mon narrateur, Carton Mercier. Et c'était aussi une façon pour moi de sortir de la solitude de l'écrivain, de faire un peu comme peut le faire mon ami Angin Préjocage lorsqu'il fait appel à un scénographe ou à un musicien. Et je le voyais faire et je me disais, mais toi, tu as de la chance, quand tu crées tes chorégraphies, et ben, tu es toujours entouré de plein de gens et moi, je suis toujours tout seul. Donc, je vais, pour ce roman-là, faire appel à un autre artiste, donc demander à une photographe dont j'admire et j'adore le travail, qui s'appelle Dolores Marin, si elle voulait bien m'aider à faire des images pour ce livre. Et puis, j'ai demandé une bourse, parce que ça coûtait quand même pas mal d'argent. Il fallait que je paye Dolores, il fallait me procurer tous ces déguisements. J'ai fait appel à un grand perruquier parisien qui travaille beaucoup pour le cinéma et l'opéra pour faire toutes les perruques, les postiches, les barbes et tout ça. Et donc, j'avais communiqué à cette personne un descriptif très précis de tous les personnages. Et puis, donc, j'ai demandé une bourse à la délégation aux arts plastiques. Et Pascal Cassagno, donc, de la DAP, m'a octroyé un peu d'argent pour faire ce travail qu'on a fait avec Dolores. On a beaucoup parlé avant de nous lancer dans cette aventure, parce que je lui ai dit c'est précisément ce que je voulais. Et puis on a fait des repérages, il fallait qu'il y ait un ascenseur avec une pastille ronde qui clignote, puisque c'est quelque chose de récurrent dans le roman. Et on a fait ça en une nuit. Et c'était une expérience, c'était vraiment qui relevait là vraiment de la performance. On a commencé à 4h l'après-midi, on a fini à 7h du matin. Et à chaque fois qu'on entendait l'ascenseur, on allait se cacher pour pas être. J'ai pas envie d'être embarqué au commissariat déguisé en femme. Non.
Alors, y a-t-il des questions?
Tu voulais pas que je lise un extrait?
Attends, il y a peut-être des. Parce que c'est toujours la première question qui est toujours la plus compliquée, donc peut-être qu'on peut passer à la deuxième question.
Bonsoir Eric.
Bonsoir.
C'est très balzacien tout ça, tous ces personnages récurrents qui reviennent avec leur histoire.
Oui, d'une certaine façon, oui. Mais... C'est vrai, ce qui me fascine chez Balzac, c'est sa capacité à avoir témoigné de son époque et à avoir comme ça pris à bras le corps dans des romans le monde dans lequel il vivait, à travers des dimensions que beaucoup d'écrivains ignorent ou ne se sentent pas capables d'affronter, comme la dimension économique et tout ça. Et Balzac est très à l'aise dans des descriptions, par exemple, de faillite ou de création d'entreprise. Et puis, par ailleurs, il peut avoir comme ça des peintures extrêmement précises et sensibles de destin humain. Donc, effectivement, oui, c'est un écrivain que j'aime beaucoup.
Juste avant de... C'est vrai que j'ai envie que vous lisiez un extrait de Cendrillon et notamment de l'automne, qui est votre saison de prédilection. J'avais moi envie de vous demander si enfant vous étiez assez sensible aux contes, parce que quasiment tous vos livres sont très référencés sur les contes de fées, pas seulement Cendrillon, mais La Forêt, L'Enchantement. C'est quelque chose qui est là aussi... revient très fréquemment dans vos livres, même si qui viennent aussi contrebalancer la réalité que vous dépeignez.
C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, mais certainement que ça m'a.
Les forêts.
C'est vrai, j'ai une espèce d'obsession. Alors effectivement, il y a des, pour faire écho à ce que nous disions tout à l'heure sur les personnages qui reviennent, il y a aussi des objets qui reviennent, enfin des objets. Des éléments qui reviennent de manière récurrente. Il y a des sangliers dans tous mes romans, par exemple. Vous avez remarqué ça?
C'est ainsi que vous avez signé votre lettre à Nicolas Sarkozy dans Télérama, ton sanglier.
C'est vrai. Je suis attablé en terrasse d'une mour et c'est une féerie. Un enchantement se produit chaque année dès les derniers jours du mois d'août, qui s'accompagne d'un déplacement de tout mon être dans un espace où il s'intensifie, où il scintille et se consume comme sous les feux d'un projecteur. Cet espace auquel j'accède est l'espace de l'automne. Une résurrection. Une longue extase paroxystique qui démarre à la fin du mois d'août pour s'interrompre avant Noël. Je sors de mon appartement avec la sensation que tout peut m'arriver. J'envisage chacune de ces journées avec la même ivresse qu'on envisage un long voyage nocturne vers une destination qu'on ignore. Je sens dans l'atmosphère l'imminence d'un événement décisif, susceptible de me faire accéder comme par magie à ces ailleurs inaccessibles que je convoite depuis l'adolescence. Cette imminence d'un rendez-vous capital constitue la matière de l'automne, sa substance atmosphérique, traversée par des signaux immatériels, des présences suspendues, des énergies dynamiques, perceptibles par moi seul. Un événement suprême peut advenir à tout instant, des connexions fabuleuses peuvent se produire à tout instant. C'est cela que déclame autour de moi l'atmosphère de l'automne, c'est cela qui palpite dans la lumière. C'est cela qui clignote entre les choses, c'est cela qui s'illumine entre les êtres, sur les visages des femmes, dans leurs regards soudain hospitaliers, et c'est cela qui respire sans lassitude dans l'écoulement du temps. Le monde sensible se manifeste de la manière la plus intime, l'espace et la lumière, le ciel et les nuages, le vent qui souffle et les temps qui s'écoulent, le soleil qui brille et la lune qui étincelle. L'automne rend le monde habité. La lumière de l'automne fait parler la réalité. L'atmosphère de l'automne inscrit du sens entre les choses, entre cet arbre et cette façade, entre ces branches et cette fenêtre, entre le kiosque à journaux et chacun des réverbères qui ponctuent l'esplanade, espace qui n'est plus vide mais substantiel, méditatif, un espace qui a l'air de se penser lui-même et de penser les êtres qui le traversent. Un espace animé par des forces invisibles. Des forces qui peuvent produire des phénomènes, occasionner des événements, favoriser des rencontres. C'est ça l'automne, pour moi depuis toujours. Une présence qui amoindrit ma solitude, une proximité qui atténue mon isolement, qui m'invite à partager les douceurs qu'elle prodigue. Le monde sensible, qui s'était tenu à distance durant des mois, semble s'être soudain rapproché. Je me sens en osmose avec réalité, dans un rapport d'intimité avec le ciel, la lumière, la pierre, les arbres, avec les corps et les visages. Tout me parle, tout fait sens, tout est dense, habité. Quelque chose de suspendu me fait des confidences. Quelque chose d'immanent me murmure des secrets. Des secrets inaudibles, à la substance desquels je n'accède pas, mais dont je sens que l'atmosphère désire me les transmettre. Comme des lèvres que je verrais parler, mais dont nul son intelligible ne sortirait. Comme des lèvres d'où s'écoulerait de la lumière et des nuages, un ciel pensif et des femmes mystérieuses. Et ces visions soudain si proches, si familières, seraient le son, seraient la mélodie, seraient les phrases de ce secret murmuré, clos sur lui-même. Mais ce secret se connaît-il ? N'est-il pas un secret amnésique ? Un secret qui serait à lui-même son propre secret ? Qui préexisterait au contenu capital qu'il renferme ? Qui attendrait pour advenir à lui-même que je sois exaucé ? L'automne serait-il donc la prémonition de mon propre avènement ? J'allume une cigarette et porte le verre de vin à mes lèvres. Le sens des choses m'apparaît avec une acuité extraordinaire. Tout me concerne et produit sur mon imaginaire un impact incroyable. Toute présence humaine fait ondoyer ma vie intérieure à la manière d'un caillou jeté dans un étang. Tout me perce. Chaque personne que je croise s'introduit dans ma vie, ou bien c'est moi qui m'introduis dans la sienne, dans sa fragilité et sa beauté intérieure. Les silhouettes ont l'air de circuler à l'intérieur de leur énigme comme si, orientées par les signaux d'une sensation capitale, elles avaient toutes un rendez-vous décisif. Seul l'automne donne l'impression de voir le monde pour la première fois. Seul l'automne apporte la certitude que l'individu le plus anodin, figure historique de sa propre existence, un rêve ancien illuminé dans ses pensées comme un monument dans la nuit, s'achemine quelque part. Suis-je seul à éprouver ces sensations ? Et quel est donc ce rêve ancien, toujours le même, si essentiel, que l'automne me promet d'exaucer ? M'enfuir, m'affranchir du social, sortir de la réalité, rencontrer la reine, accéder à une rive réelle. Je reviendrai plus tard plus amplement sur la figure de la reine et sur celle de la magie indissociable, centrale dans mon imaginaire. Pour quelle raison, durant les mois d'automne, ce rêve ancien circule-t-il dans l'atmosphère et non plus seulement dans ma tête ? L'automne a toujours produit sur mes sens cet impact incroyable et je dirais qu'il s'accentue. J'ai écrit les meilleures pages de mes livres à l'automne. J'ai vécu mes extases les plus riches à l'automne. C'est à l'automne que j'ai séduit les femmes les plus inouïes. C'est à l'automne qu'André Breton a rencontré Nadja. Aurait-il pu la rencontrer au printemps ? C'est durant les mois d'automne que Stendhal a écrit la Chartreuse de Parme. Peut-on imaginer un seul instant que Stendhal ait pu l'écrire en seulement 53 jours en dehors des mois d'automne, par exemple au mois d'avril ? Nadja est le livre de l'automne. Il représente pour moi le manifeste des mois d'automne. L'esprit de Nadja, c'est l'esprit de l'automne. La substance de l'automne, c'est la substance de Nadja. Le hasard, les rencontres, l'amour, le mystère, l'inspiration, les signes, l'errance, le magnétisme, la gravité, l'intériorité, le monde habité. Pourrais-je envisager d'exister plus longtemps sans cette extase ? Me serait-il possible de surmonter sans cette extase l'épreuve pénible que ma personne constitue pour elle-même en dehors de cette période ? Pourrais-je ne plus rêver et vivre ainsi sans le recours au rêve si cette extase annuelle ne se produisait plus ? J'ai déjà répondu plusieurs fois à ces questions, dans des conversations, dans mes livres. Il me serait difficile d'envisager l'existence si chaque année ce phénomène féerique ne s'enclenchait pas. Si chaque année, à la faveur de l'automne, je n'advenais pas à moi-même de la manière la plus puissante. Si la vie devait se dérouler sur le mode superficiel du printemps, je me serais suicidé depuis longtemps si l'automne n'existait pas.
Merci Eric Renard.
Merci.
Voilà, j'avais envie de terminer cet entretien sur ces très belles pages sur l'automne qui nous montrent bien que vous associer à Houellebecq me paraît un peu inconsidéré. Merci à vous en tout cas et merci encore Eric Renard pour cet entretien.
Merci Christine. Merci, au revoir.
Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on doit vous remettre un prix ce soir, une récompense littéraire. C'est ça, donc nous allons nous quitter. Merci infiniment.